alors, en écoutant les autres orateurs, je me suis aperçu que j'avais un peu tout faux dans la manière de présenter les choses que je voulais vous présenter, parce que ça tournait beaucoup trop autour de mon travail. Et que, évidemment, j'ai affaire à... Enfin, il y a des questions de type qu'on appelle prospective, savoir où on va. Alors moi, comme architecte, je sais où on va parce que je sais où je vais. Mais il y en a qui ne vont pas du tout à l'endroit où je vais. Mais je ne peux pas imaginer le futur autrement qu'à travers tout ce qu'il faut pour que ça aille. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça veut dire que je suis un peu obligé de recadrer ce que je vais vous montrer dans un peu ce que je vois, les grandes tendances qui font que la ville va mal et comment y remédier. Alors, et du coup, je n'ai pas préparé, mais enfin, je vais essayer de me débrouiller. Alors, il y a une série de facteurs qui font que... Enfin, il y a une série de choses qu'il faut, qu'il faut pointer de façon extrêmement sérieuse et qu'à mon avis, je suis très impressionné de parler là parce que c'est les gens de la pensée, puis moi, je fais partie du visible. Et très souvent, d'ailleurs, les gens de la pensée ne font pas référence au visible. Et ceux du visible ne pensent pas beaucoup. Et par exemple, il y a des sociologues qui n'ont pas remarqué qu'à des moments dans l'histoire de l'habitat, la forme urbaine change. Et que cette forme urbaine, quand elle devient extrêmement con, ce qui est le cas de tout ce que le mouvement moderne a produit, ben, ça n'est pas uniquement des histoires de chiffres et de statistiques. C'est qu'il y a un renversement de la forme urbaine et qu'il se pointe là une catastrophe qu'on va voir arriver. Mais bon, tout ça pour dire que une des premières questions liées à la question de la ville, c'est, vous prenez le bouquin de Bourdieu, La misère du monde, vous mettez un calque, et vous apercevrez que plus c'est moche, et plus il y a de misère. Voilà. Le moche est un événement de type dramatique du point de vue de la société. C'est mon ami Jean-Paul Dollier, philosophe, avec qui on a bossé dans le cadre du Grand Paris, avec Hervé Lebras aussi, on a fait un travail d'équipe, comme on dit, pluridisciplinaire. Jean-Paul Dollier dit, il n'y a pas de démocratie du lait. Et en effet, on a pointé, maintenant je regarde à chaque fois, les élections, quand on regarde bureau de vote par bureau de vote, pas même les communes. Il faut regarder les bureaux de vote. Et notamment, il y a des endroits où les communes, un grand ensemble, un bureau de vote. Je prends la commune de Stein, que je connais vraiment bien. Le Clos Saint-Lazare, qui est un quartier de l'époque rationaliste, de l'époque des grands ensembles, des années 60, fabriqué avec les meilleures intentions du monde, de l'air, du soleil, de la lumière pour tous. Et elle a clé tout ça à la fin, une non-ville. Dans ce quartier-là, du Clos Saint-Lazare, quand à Stein, on va voter à 50% un jour d'élection, on n'a qu'à dire cantonale, enfin bref, qui passionne pas les foules, dans le quartier du Clos Saint-Lazare, ça va être 23%. Dans les quartiers les plus tragiques, les plus moches, les plus enclavés, les plus fermés, ben, par exemple, on ne vote plus. On vote très peu. C'est vrai aussi dans non seulement dans la mocheté de la chose, mais aussi dans l'éloignement de la chose. Plus c'est éloigné aussi. Alors si c'est éloigné ou moche, bref, je ne vous fais pas de dessin. Et donc cette question-là, elle est extrêmement sérieuse par rapport à l'avenir des villes. C'est cette question de comment les gens habitent, où ils habitent, c'est devenu une question dramatique. Alors, tout le monde sait, par exemple, dans les grands ensembles, au moment où l'économie marche, au moment où les gens quittent des endroits pas très salubres, où il y a des toilettes sur le palier, où il n'y a pas de salle de bain, l'arrivée dans les grands ensembles se fait en général en fanfare. On est extrêmement fiers d'habiter. On a des grands séjours. Il y a des salles de bain, etc. Bon, il y a une idée d'égalité en plus. Absurde, hein, les bâtiments sont tous pareils. ça fait égal. On verra que c'est une très très mauvaise idée de figurer l'égalité comme une grille à la bataille navale, c'est 12 coulées. Ou même de faire des portes d'entrée, ou si on a un peu bu, on peut même se tromper de porte quand on rentre chez soi. Donc, cette fabrication urbaine va se retrouver être, une fois que les mobilités résidentielles vont se faire pour ceux qui sont mobiles, devenir le réceptacle de la misère. Ce n'est pas le décor qui a produit la misère, comme les journalistes racontent à un moment, quand la question des banlieues apparaît, c'est la misère qui trouve son décor. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc cette question urbaine, elle est très sérieuse. La non-citadinité a un rapport avec la non-citoyenneté. Pareil pour le vote Le Pen, par exemple. Le vote Le Pen est extrêmement fort dans certains quartiers extrêmement moches. Et par exemple, dans Paris, il n'a jamais pris. Il n'a jamais pris sérieusement, alors qu'il y a tous les ingrédients ethnico-raciaux, enfin, je n'emploie pas ces mots, mais enfin, moi, habitant le 11e arrondissement, près de la mosquée, qui bouche la circulation le vendredi soir d'une façon désagréable, et dans lequel, si on se trompe dans l'épicerie en demandant du whisky, on se fait beaucoup engueuler, le bureau de vote, 10% vote Le Pen. Ça ne marche pas. La bonne urbanité a fait que, par exemple, la bonne urbanité de la ville a fait que le vote d'exclusion ne marchait pas. Par contre, Vitrolles, le fameux séisme de Vitrolles, même les journalistes avaient remarqué que, on avait qu'à mettre 40% sur le midi de la France. Le comptoir, le midi de la France, les rapatriés, enfin tout ce qu'on veut. Mais il fallait mettre 20% de plus pour arriver à 60, pour que Maigret soit élu sur l'urbanité en cul-de-sac, l'urbanisme en cul-de-sac de cette ville de Vitrolles, qui est une des plus mal faites de France. Donc il y a une vraie histoire urbaine qui s'est jouée et qui est une histoire politique et qui est extrêmement... Et sur lequel, à mon avis, évidemment, il faut agir en priorité. C'est la grande question, me semble-t-il, en France. On a même coutume à dire qu'en gros, la question sociale s'est déplacée à la question urbaine, puisqu'on va trouver dans les quartiers qui sont les plus moches tous les derniers arrivés, tous les exclus, deux fois plus de malades, je signale, on a parlé de dépenses de santé. Quand ensemble, deux fois plus de maladies, deux fois plus de chômeurs, enfin, c'est à ce tarif-là. Hein. Et la laideur. Bien. Dans un pays qui est le nôtre, dans lequel le dernier atout économique qui nous reste, c'est la beauté des villes. Dans un pays qui est accablé de... une France qui s'épuise, quoi. Donc, l'esprit d'entreprise. Pardon, je croyais avoir coupé mon portable. La situation. On s'excuse, mais je suis désolé, je l'avais coupé. Je sais pas ce qui... Voilà, c'est coupé. Pardon. Ouais, dans notre pays encore, par exemple, moi, je suis absolument convaincu qu'il y a encore un peu d'attraction économique en France. C'est lié à la beauté de la ville, de Paris notamment, par exemple. Et que ce n'est pas du tout parce qu'il y a un cluster à la Défense. C'est parce qu'à la Défense, il y a un grand axe magnifique, il y a un ciel inouï et que tout ça vous rattache à Paris. C'est grâce à le nôtre que la Défense marche. Et grâce à la Grande Arche qui a fait que le nôtre a continué à être architecte en chef. Parce que ce n'est pas le tas de tours mal foutues. C'est pas ça qui a fabriqué une coagulation. C'est un grand ciel central. Et voilà. Donc, je dis tout ça parce que c'est une deuxième question que Christian Blanc ne comprendrait évidemment rien, enfin, auquel en général la plupart des technocrates ne comprennent rien, c'est que la beauté de la ville n'est pas du tout la cerise sur le gâteau, c'est à partir de la cerise qu'on fabrique le gâteau. C'est plutôt comme ça qu'il faut prendre la chose. J'appelle beauté la dignité, hein, pour être honnête, le mot beauté étant compliqué à gérer. Par exemple, ce que j'ai appelé moche, j'aurais dû dire indigne. Les grands ensembles sont indignes. Et puis, quand ils sont beaux, ils sont dignes. Donc on a qu'à plutôt remplacer le mot beau par digne, mais enfin, on voit après de quoi il s'agit. Donc la question, par exemple, dans notre pays, ce pays un peu, je trouve un peu accablé en ce moment, plus accablant, plus, bon, je vous passe même, moi je ne veux pas faire de méchanceté, enfin bref, dans lequel la chasse aux tziganes passe pour être la question centrale, on sent cette espèce d'affaiblissement, et c'est vrai qu'il a encore une énorme attractivité par sa beauté. C'est quand même, je crois que c'est Élie Faure qui, dans ce bouquin magnifique qui s'appelle Connaissance de l'archipel, disait la France, la mesure de l'espace. C'est quand même, on a quand même inventé Versailles a produit Saint-Pétersbourg, Haussmann a produit Buenos Aires. Enfin, je veux dire, il y a une tradition de l'espace formidable qui, d'ailleurs, a rendu d'autant plus indignes les espaces pathétiques fabriqués à l'époque des Trente Glorieuses, qui furent Trente Horribles. Il faut ajouter horribles. Et qui furent purement quantitatives. Moi qui suis devenu, comme tout le monde, gaulliste et qui adore le général de Gaulle comme écrivain, je constate avec horreur que quand il parle de villes, des villes qu'il a construites, ben, il met des chiffres. Hein. Il ne peut pas dire des lieux. Bon. Donc il y a vraiment une situation, sur la question de la beauté qui est mauvaise du point de vue de la technocratie, qui s'en fout, et mauvaise du point de vue des hommes politiques. Alors pour une raison encore plus ennuyeuse, c'est que la ville, c'est le lieu du temps long, fatalement, et que le temps aujourd'hui, c'est même plus du temps court, c'est du temps instantané. Et que, alors ça c'est une tragédie, c'est carrément la tragédie de la fabrication urbaine. Par exemple, dans un temps municipal, un maire va annoncer « je veux faire une médiathèque ». Bon, alors on va dire « chic, une médiathèque », alors on fait un concours, on prend le temps de faire le concours d'architecte, il y a une médiathèque. On inaugure la médiathèque, il y a une élection, et on va faire un gymnase. Si jamais il veut transformer un morceau de ville, ou s'il a le malheur de risquer un tramway, donc risquer un tramway, c'est embouteillage, 4-3 ans d'embouteillage, faut prendre des tas de conseils en communication pour savoir à quel moment on lance le tramway, à quel moment il est fini, sinon en réélection, au revoir. Donc il y a une question, le temps démocratique moderne et le temps de la ville sont divorcés. Le temps médiatique moderne et le temps de la ville ne sont même pas divorcés. Ils ne sont jamais rencontrés, ils n'ont jamais été mariés. La question du temps est absente, alors que c'est la question centrale de la question urbaine. Pour compléter le tout, il y a la question de la décision démocratique. Alors, la décision démocratique, elle est maintenant accablée. Alors, elle est accablée d'un certain nombre de choses. Elle est accablée d'une idéologie environnementaliste vulgaire qui consisterait à ne pas faire grand, à en faire le moins possible. Elle est accablée de la spécialisation des questions qui, toutes mises bout à bout, peuvent empêcher un projet. J'ai entendu les archéologues tout à l'heure. Je regrette de leur dire que, ce n'est pas du ressentiment, mais néanmoins, je faisais à Sens un projet où un maire courageux avait tenté de relier le grand ensemble et le centre-ville par un projet qui reliait les deux. Effectivement, il y a eu une découverte archéologique. Je ne dirais pas son importance, je suis incapable de la dire, encore que c'était quand même, il n'y avait pas de cailloux, hein, c'était des alignements de morts en éventail, enfin je sais pas, bon, c'est certainement extrêmement intéressant, je n'ai rien contre l'archéologie, je trouve que l'action de la mémoire est fondamentale, mais il faut que je leur dise que ce qui aurait transformé fondamentalement Sens, qui a beau être une petite ville de 10 000 habitants, un quartier épouvantable, très moche. Une voie de chemin de fer, un quartier très très joli qui a pris son temps. Et entre-temps, un monastère a transformé pour faire une couture urbaine. Bon, j'étais architecte, n'y voyez pas que le ressentiment de l'architecte. Ce projet était bloqué 2 ans par les archéologues. Il était impossible de le mettre sur le débat public. Moi, j'en aurais bien voulu qu'il y ait un débat public, qu'on se mette d'accord sur les urgences. Bon, ça, c'était les archéologues. Après, moi, j'ai un aveu. Je viens de sortir un livre. Vous verrez, j'ai fait un aveu parce que mon premier bâtiment public sortant, j'avais 40 ans et j'étais à Saint-Denis. Et j'avais bien peur qu'il y ait des fouilles. Je crois bien que j'ai dit au chef de chantier, si vous trouvez quelque chose, vous m'appelez. Mais bon, ça c'est très mal. Très mal, mais en même temps, on ne peut pas accabler l'avenir par le passé. En même temps, je trouve formidable vos archéologues, et je trouve même que c'est un symptôme formidable, cette passion pour l'archéologie. Hein. Je dis ça juste en vitesse. Juste pour dire, par ailleurs, qu'on a quand même vu récemment, dans une gare de banlieue, particulièrement moche, dans un coin particulièrement enclavé, un projet bloqué par les chenilles processionnaires. Et on a quand même vu des dépenses hallucinantes liées à une histoire de biodiversité pour passer sur une autoroute. Bon, entre les hommes, enfin bref, je suis au courant qu'il y a plein d'ennuis autour de l'espèce. Enfin, il y en a pas mal autour de l'espèce humaine. Et donc, bon, et il n'y a pas d'espace où s'arbitrent ces questions, où elles sont posées. Voilà. Alors, on est dans la merde. On est un peu embêté. Tout ça, ça fait beaucoup de choses qui font que c'est très compliqué de bosser sur la question urbaine. Alors, si j'y ajoute en plus, mais c'est pour les spécialistes, le débat, on n'a qu'à dire, entre deux types d'architectes urbanistes, je me mets dans un des deux types. Il y a ceux qui sont dans la théorie du reflet. Alors j'ai nommé Rem Koolhaas. Donc le monde est dans le chaos, on continue. Et il ajoute, comme je suis au Collège de France, vous traduirez vous-même, fuck context. Le contraire. Bon. Et puis il y a des gens plutôt à contre-courant de ce courant, comme moi, qui sont pour l'urbanité, le tricotage, le promeneur, même si c'est désespéré, il y a peut-être un chemin, enfin, etc., etc. Bon, et qui sont, eux, dans l'idée il faut faire attention à ce qui existe, attention y compris à ce qu'il y avait en dessous, avant, la rivière d'à côté, etc., qui sont contextuels. Bon. Contextuels et qui... Bon, alors, ça, et la pensée Koolhaas a eu un défaut terrible, c'est qu'elle a, alors que la question architecturale et urbaine sont extrêmement nouées, quand Koolhaas a fait l'éloge du chaos, il a autorisé tous les jeunes gens dans le monde à fabriquer des objets posés n'importe comment, n'importe où, et en général assez rigolo. Mais ça fait des objets rigolos, mais ça ne fait pas une ville. Et la pensée urbaine qui commençait, nous avions, après 68, fait tout un travail avec Christian de Porzempart, avec Antoine Grimbach, avec d'autres, pour retourner à la ville. Et puis, il y a eu un vrai travail de retricotage de la ville, en tout cas en dessin beaucoup. Et puis, patatrac, est arrivé l'enfer du look. C'est-à-dire que, avec la pensée à la Koolhaas, sur, en gros, oui, c'est une... enfin, Koolhaas, si vous voulez faire son travail, vous allez voir Euralille à Lille, hein, c'est plus simple. Donc, voilà, Euralille, c'est... Faut aller voir. C'est le mieux, c'est de voir et de fréquenter. Moi, la première fois que je suis allé avec... Je ne l'aimais pas théoriquement, mais j'ai été me réfugier dans le vieux Lille, quand même. Hein. Et puis, je suis content d'arriver à Lille-Flandre. Quand j'arrive à l'autre, ah oui, c'est ça, je savais. Je savais, bavard. Bref. Alors, bon, tout ça, c'est pour vous dire dans quel désarroi nous sommes. Et puis à part ça, j'avais prévu 3 images ou 4 pour vous dire dans quel, comment. Alors ça, c'est, excusez-moi, c'est uniquement mon boulot. C'est pour ça que je suis très embêté, parce que j'aurais pu étayer ce boulot par d'autres travaux d'autres architectes, mais enfin, j'ai quand même un peu, je l'ai amené avec des choses sur moi, j'ai vraiment pas bien compris ce que ça devait être. Juste pour vous montrer 3 ou 4 images, très rapidement, il y a quand même alors une série d'événements, enfin, pas d'événements d'espoir, mais il y a des chemins. Dans toute cette histoire, il y a des chemins, malgré ce temps, malgré, etc., malgré tout ce que j'ai dit de la situation. Alors, il y a eu un événement quand même formidable qui est le lancement du projet Grand Paris. Je vais appuyer où ? Voilà. Le projet Grand Paris, je vous montre que le mien, mais je vais te faire très très vite. Hein. Mais ce projet du Grand Paris a été une occasion. Il a été posé. Il y a eu 10 architectes, 10 équipes d'architectes, des équipes avec toutes sortes de gens. Hein. Puisque, je vous disais, Hervé Lebras était dans la nôtre, par exemple. Toutes sortes de gens, et donc on n'avait pas laissé l'architecture aux seuls architectes. Et dans ces équipes, ces 10 équipes, ont bizarrement, alors que d'habitude la guerre des égos est une. C'est encore pire que chez les universitaires, si je puis dire, chez les architectes. Je crois que c'est vrai dans toutes les corporations. Enfin, chez les architectes, c'est absolument épouvantable. Et là, au-delà d'une guerre des égos qui est perpétuelle chez les architectes, il y a eu quand même des tas de points communs qui ont été noués. Quoi. Il y a eu des manières communes de répondre. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, il y a eu une sorte d'écoute dans les populations, et notamment, enfin bon, les maires de banlieue ont commencé à cesser d'être protectionnistes, enfermés sur eux-mêmes, enfin, etc., etc. Bon, il s'est passé des choses. Je dis que cet événement-là, alors je vais un peu vite pour dire, j'ai pas le temps de raconter les principes, je vais aller très très vite, ça c'était les principes et les méthodes qu'on appelait de Grand Paris, je crois qu'il me faudrait trop. Hein, j'ai pas le droit. Non, je crois que j'ai pas le droit, j'avance. Je vous raconte juste celui-là. Ça, c'est l'image synoptique du travail qu'on a fait et qu'on a dédié à. Disons que ce Grand Paris devient un Grand Paris multipolaire. Il n'est plus unipolaire, il est multipolaire. Il allume des lumières partout. Il s'appuie sur la géographie et tous les forts qui traînent autour de la couronne parisienne. Il s'organise comme un orchidée avec des pétales liés à la vallée de la Marne, la vallée de la Seine, la vallée de la Bièvre, les Hauts de Versailles. Bref, il s'appuie sur les grands événements géographiques, il met en lumière des endroits formidables, les plus beaux ciels de Paris, le port de Gennevilliers, le canal de l'Ourcq, Rungis, formidable, enfin des endroits formidables, dont il imagine qu'ils peuvent devenir des polarités nouvelles. Et dans un dessin synoptique comme ça, on a raconté que c'était un projet lacanien, parce qu'il était noué comme le nœud borroméen de Lacan, vous savez, le nœud à 3 brins, si on en coupe un, tout le monde se barre, enfin, tous se barrent, donc, comme le sujet, vous, moi, on est tous tenus par ce nœud, notamment quand le nœud du symbolique se barre, le nom du père se barre, la psychose. Et là, on a donc montré comment il y avait 1001 villages, 1001 villages, donc 1000 lieux réels, il y avait des nouveaux lieux symboliques, je vais aller vite. Y compris, il faut que j'aille vite. Et puis plein de lieux d'ailleurs, plein de lieux de voyage. Le Grand Paris est un territoire de l'ailleurs. Et puis en bas, il y avait toutes les conditions du Grand Paris. Bon. Autour, ça c'est le mien. Mais vous verrez que dans les autres équipes, il y a beaucoup de choses qui sont. En tout cas, M. Lussault peut-être pas en témoigner, puisqu'il a suivi toute l'affaire. Très rapidement, c'est une des images de mon Grand Paris où il y a des. Projet de tour avec des jardins suspendus. Je vais faire vite pour vous raconter ce que peut devenir un village vertical. Ça, c'est ce que vous connaissez, pas terrible. Ça, c'est un peu mieux, c'est comme on arrive à grouper des maisons et tout ça. Et ça, voilà, ça c'est l'histoire d'une tour de jardin superposé. Vous voyez cette coupe. Bon, c'est la manière dont elle peut se poser dans un territoire. Ça, c'est voilà, très intéressant parce qu'il y a à chaque fois 18 maisons autour de cours, les unes sur les autres, et le jardin. Et vous avez comme une sorte de jardin canne vertical, vous traversez une série de jardins en allant chez vous. Ça, c'est vachement bien bioclimatiquement, mais on en parlera une autre fois. Et ça donne ces systèmes de jardins suspendus, où il y a même des jardins ouvriers au 16e étage. Bon, voilà. Et la fête des voisins, voilà. Exemple d'une urbanité un peu nouvelle, d'une densité, d'une réflexion sur la densité, qui en même temps, évidemment, brise avec ce qu'on connaît des tours traditionnelles accablantes. Et ça donne ça. Il y en a, celle-ci va se construire à Gennevilliers. Elle a été acceptée par la population. Enfin, c'est un travail pédagogique. J'avance. Il y a évidemment, peut-être vous connaissez, parce que c'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie quand même, c'est le remodelage des quartiers de la pire époque. Donc ça se passe à Lorient, c'est la façade maritime. En haut, c'est avant. En dessous, c'est après. Ça, c'est en haut, avant, et ça, c'est après. Hein. C'est même une carte postale dans la ville. Ça, c'est pour raconter ce qui me semble indispensable de faire dans les quartiers les plus moches. Un vrai travail d'embellissement. Et tout ça, c'est pas uniquement de la couleur, hein. C'est une manière d'habiter, etc. Ça, c'est, je suis content parce que c'est la première tour en France qui va être remodelée. Et là, il y a le dessin, mais la photo, est, enfin, il est construit, c'est fini. Et en général, aujourd'hui, quand l'agence de rénovation urbaine arrive quelque part, elle dit « s'il y a une tour, il faut casser », le maire d'Angers, intelligemment, a dit « non, il y a un signal au moins dans la ville », et on l'a remodelée, elle est devenue un... Les habitants sont très contents qu'on l'ait transformée complètement et qu'on ait enlevé le côté stockage qu'elle avait avant. Voilà. Et dernier, j'ai pas le temps, mais je vous raconte, c'est un morceau de ville, Angers, c'est environ 15 000 habitants, 5 000 logements, ça va prendre 20 ans. Et on l'a fait comme un... Enfin, c'est une manière de tricoter des jardins et des îlots qu'on a finalement dessiné à la manière d'un tableau, en mettant du poids sur les bâtiments les plus hauts, mais en... C'est un travail très impressionniste, comme un promeneur, c'est un des chemins que moi j'emprunte pour retricoter la ville d'une manière qui la rende plus féminine, plus attentive, plus poétique et qui l'extrait des canons ultra-rationalistes qui l'ont massacré. Voilà. C'était...
Je vous remercie beaucoup pour cet exposé plein d'ardeur, bien que parfois vous ployez sous le poids des difficultés. On aurait pu vous demander à un esthéticien ou un spécialiste de la simulation de commenter vos propos. Nous avons préféré demander à un spécialiste de la géographie urbaine, Monsieur Lusso, qui est venu spécialement de Lyon pour ce colloque, et je l'en remercie, de dire ce qu'il pense et de votre exposé et des problèmes qui se posent actuellement dans l'urbanisme français.
Merci beaucoup. Je vais essayer d'illustrer à ma façon ce malaise dans la civilisation des villes dont Roland Castro a parlé, de son point de vue d'architecte, qui est bien entendu confronté à la nécessité d'essayer de trouver des formes nouvelles pour traiter cette crise qu'il a rapidement évoquée. Et je voudrais le faire en vous disant d'abord que partout au monde, puisque c'est aussi un peu le thème de ce colloque, les sciences urbaines changent profondément. Plus partout qu'en France, d'ailleurs, où nous sommes relativement peut-être à l'écart de ce mouvement pour des raisons que j'essaierai d'expliquer en fin de propos. Ce changement n'est pas essentiellement lié aux évolutions de l'organisation de la recherche. Bien sûr, il y a des impacts dans ce domaine comme dans d'autres, de la logique de projet, de la logique d'ouverture à un certain nombre de préoccupations des intérêts économiques ou de la société civile, mais ce n'est pas cela qui est fondamentalement à l'œuvre. Je crois que le changement des sciences urbaines tient au fait que tous les phénomènes dont parlent ces sciences témoignent en vérité d'un bouleversement radical auquel souvent nous ne prenons pas garde, en particulier dans notre pays. Et ce bouleversement radical, je vais l'illustrer d'une phrase peut-être un peu forte. En un demi-siècle, la ville a disparu. la ville n'existe plus. Au vrai, cela fait déjà près de 50 ans que l'on commence à s'en douter ailleurs qu'en France. Dès 1962, Melvin Weber, un grand urbaniste américain qui était professeur à Berkeley, écrivait un texte, Urban Place and the Non-Placed Urban Realm, donc les lieux urbains et le royaume ou le réseau des non-lieux. Il était suivi, ce texte, en 68 d'un livre Post-City Age, qui a été un livre vraiment tout à fait fondamental, dans lequel Weber expliquait, à partir du point de vue particulier qui était celui de l'observation de l'urbanisation américaine, que ce que l'on appelait city, la ville, était en train de disparaître. Et que cette disparition, elle était évidemment annoncée par toute une série d'évolutions qui avaient commencé dès les années 1880, sans doute à Chicago puis à New York, mais que cette disparition, elle allait être accélérée par toute une série de processus et de phénomènes. Il a fallu attendre très longtemps pour que, dans la littérature française, on connaisse Weber. Le texte de 62 n'a été traduit que pratiquement 45 ans plus tard. Il a fallu attendre Françoise Choët, la grande Françoise Choët, dans les années 90, pour que celle-ci, après un travail qu'elle avait réalisé pour le ministère de l'Équipement, écrive un texte fameux dans le catalogue de l'exposition Art et architecture du Centre Pompidou, donc en 1994, un texte fameux, La fin de la ville et le règne de l'urbain, texte qui a énormément compté pour toute une génération de chercheurs francophones, et où elle expliquait à sa manière, qui n'était pas exactement celle de Weber, que de fait, il fallait admettre que la ville avait disparu. Et que le mot « ville » lui-même et l'ensemble des mots que nous avions l'habitude de rattacher à ce mot, c'est-à-dire l'ensemble du corpus conceptuel, du lexique de la ville, n'avait plus beaucoup de sens, plus beaucoup de portée cognitive pour essayer de comprendre ce que nous avions sous les yeux, ce qui est en train de se passer. Et Françoise Choët appelait de ses voeux une nouvelle manière d'appréhender l'urbain, l'urbain qui pour elle devait devenir le substantif de référence, la ville a disparu, l'urbain s'impose. Et à la suite de Françoise Choët, un grand nombre d'auteurs, de géographes, de sociologues, d'historiens parfois, ont essayé de montrer que de fait, il fallait essayer de prendre au sérieux, ce qui n'est pas une coquetterie de vocabulaire, hein, dire « ne parlons plus de ville, considérons l'urbain comme un concept englobant », ça n'est pas une coquetterie de vocabulaire, mais il fallait prendre au sérieux cette sorte de mutation épistémologique pour essayer de mieux comprendre les phénomènes que nous avions à observer. Ce qui fait que des géographes comme moi n'utilisent plus le mot « ville » aujourd'hui. Je dis même que la ville a disparu parce qu'elle s'est urbanisée. Je dis souvent la campagne s'est urbanisée, soit, mais la ville aussi s'est urbanisée. C'est-à-dire qu'une nouvelle organisation de la société est apparue depuis 50 ans, qui, terme à terme, peut être pensée comme une organisation antinomique de ce qu'a été la ville. Finalement, la ville serait une forme relativement momentanée dans l'histoire de l'humanité. Alors, on peut se demander à quel moment la ville commence, à quel moment elle disparaît. Certains la font commencer la ville dès la Renaissance, d'autres un peu plus tard, au XVIIIe siècle. Mais en tout cas, tous s'accordent pour dire que le grand moment de constitution de la ville et de diffusion de la ville, eh bien, c'est la révolution industrielle, c'est l'apparition de la ville industrielle qui en est le prototype de cette ville et qui va d'ailleurs s'accompagner de l'élaboration de corpus théoriques spécifiques, des sciences de la ville spécifiques, au premier rang desquelles l'hygiénisme, par exemple, qui a été une des grandes sciences de la ville qui, historiquement, a permis de donner du sens aussi à la ville. Hervé Lebras pourrait nous dire sans doute que la démographie s'est aussi beaucoup constituée en tant que corpus par rapport à cette ville industrielle, la géographie, l'histoire, la sociologie, etc., etc. Et puis, bien sûr, l'urbanisme. Et en partie l'architecture, qui elle a un corpus plus ancien, mais qui évidemment, à cette période-là de la vie industrielle, s'est constitué, s'est composé aussi comme geste spécifique sur l'espace, la forme spatiale de l'habitat humain. Mais l'urbanisme, n'oublions pas que l'urbanisme scientifique, l'urbanisme que nous connaissons, pour le meilleur et pour le pire, est né au XIXe siècle. Françoise Choët et d'autres ont fait même naître cet urbanisme à Barcelone, autour du travail de Cerdà en 1857, hein, qui témoigne de sa volonté de trouver un nouveau corpus théorique qui permet de traiter les problèmes de la ville industrielle de son temps, et d'abord l'insalubrité. Aujourd'hui, tout cela s'est urbanisé, c'est-à-dire a disparu. Et je crois qu'il faut partir de là. Évidemment, dans la culture française, c'est un peu gênant de partir de là, parce que si j'avais le temps, je montrerais que la ville et son antinome, la campagne, font tellement partie de l'imaginaire national, et je n'allais pas dire de l'idéologie nationale, qu'il est très difficile de se déprendre de l'idée que la ville aurait encore du sens. Mais en fait, lorsque nous parlons de ville, de quoi parlons-nous ? Mais nous parlons la plupart du temps de choses qui n'ont plus rien à voir avec ce que le concept de ville voulait bien signifier. Alors justement, que s'est-il passé ? Il me faudrait plus que les 9 minutes qui me restent pour aller jusqu'au bout, mais donnons quelques indicateurs. D'abord, quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de considérer comme fondamental, je trouve ça curieux. Une chose élémentaire, en 2007 ou 2008, là aussi je parle sous le contrôle d'Hervé, pour la première fois dans l'histoire de l'anthropisation de la planète, plus de la moitié de la population mondiale est devenue urbaine. Cette proportion croîtra sans cesse, jusqu'en 2050, où nous pensons arriver à 70 à 75% des 9 milliards d'habitants seront urbains. Mais comment considérer que ce simple fait n'est pas en soi déjà un bouleversement total ? Parce qu'il modifie complètement l'échelle des phénomènes que nous avons à traiter. 6 à 7 milliards de personnes vivront dans des organisations urbaines qui n'ont plus rien à voir avec les villes de jadis, tout simplement parce que l'ampleur des phénomènes qui se passent dans ces organisations est tout à fait considérable. De surcroît, cette urbanisation s'accompagne d'un processus global qu'on retrouve partout, qui a des impacts à toutes les échelles en même temps, qui est un processus qu'on pourrait qualifier rapidement d'étalement urbain, pour aller vite. Les organisations urbaines s'étalent de plus en plus. Les Italiens ont même créé un concept, città diffusa, qui est mal traduit en français par cité diffuse, alors que dans l'esprit des concepteurs de cette expression et de ses vulgarisateurs, notamment un confrère de Roland Castro qui était dans une des équipes du Grand Paris, Bernardo Secchi, città diffusa, ça veut plutôt dire urbanisation diffusante, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie à une mécanique ou une systémique profonde de cette urbanisation qui fait qu'elle se diffuse, qu'elle par porosité, capillarité, qu'elle gagne des espaces de plus en plus lointains, qu'elle s'organise comme une nappe de plus en plus étalée, quelles que soient les formes prises par l'étalement, formes pavillonnaires aux États-Unis ou en France, formes très compactes en Chine ou dans d'autres pays, mais partout, l'étalement est là. Et cet étalement, il pose des problèmes redoutables, problèmes d'accessibilité, problèmes d'organisation, problèmes d'impasse, hein, d'enclavement que Roland Castro a illustré en montrant quelques exemples autour du Grand Paris, etc. Cet étalement urbain, à l'échelle des 6 à 7 milliards d'habitants que nous allons connaître, c'est un défi majeur. C'est un défi majeur. Et c'est un défi qui, évidemment, va croiser tous les autres, puisque le propre des organisations urbaines, c'est qu'elles sont des organisations complexes et à complexité cumulative. C'est-à-dire que tout phénomène est lui-même source de difficultés, mais l'articulation systémique de toutes les sources de difficultés de tous les phénomènes crée une complexité cumulative absolument redoutable et qui reste aujourd'hui à penser, puisque aujourd'hui personne n'est capable très clairement de théoriser fiablement ces systèmes urbains complexes aux échelles que nous connaissons. Il y a donc un champ de connaissances extraordinaire à ouvrir, je conclurai par cela. Mais au-delà même de l'étalement, d'autres processus interviennent qui sont des processus d'urbanisation au sens fort du terme, hein, c'est-à-dire qui urbanisent les sociétés, qui construisent un monde de plus en plus urbain. J'entends ça et là, de temps à autre, des gens conjecturer sur des modèles de sortie de ville ou de fin de l'urbanisation. On peut toujours se faire plaisir, mais on sait bien que l'horizon des sociétés humaines est urbain. Qu'on le veuille ou non, il y a des effets d'inertie qui sont tels qu'on ne peut pas envisager quoi que ce soit, y compris le traitement des questions de développement durable, sans d'abord enraciner ces questions dans la problématique de l'urbanisation. La solution de la question de l'environnement n'est pas une fuite de l'urbain, c'est une urbanisation de la question de l'environnement. Et ce sont des choses qui sont évidemment tout à fait importantes. Donc, quelques autres éléments d'évolution jetés en vrac, excusez-moi, je vais très vite, mais Roland Castro y a fait allusion à sa manière. D'abord, ce que j'appelle la cosmopolitisation, Nous n'avons pas pris tout à fait la mesure, encore que nous commençons à le prendre, notamment dans le domaine politique, qu'un des éléments clés du changement, c'est aussi la modification radicale des peuplements urbains, c'est-à-dire que partout, dans toutes les unités urbaines, même élémentaires, les organisations urbaines sont devenues réellement cosmopolites. Les origines des individus sont de plus en plus nombreuses. Avec les effets de mobilité, il n'y a pratiquement plus un lieu urbain au monde qui soit à l'écart de la cosmopolitisation, n'en déplaise aux nostalgiques ou aux allégoriques de l'autochtonie. L'autochtonie, aujourd'hui, est peut-être un mythe politique utile, enfin, souvent plus inutile qu'utile, et plus dévastateur qu'intéressant. Mais néanmoins, cette autochtonie, quand vous regardez les sociétés urbaines, c'est un leurre. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, ces sociétés urbaines sont de plus en plus cosmopolites, et c'est sans doute une des dimensions du travail sociologique d'essayer de comprendre ça et de montrer les enjeux culturels, socio-économiques de cette évolution. Deuxième exemple de mutation, l'accroissement des segmentations sociales, qui est prodigieux partout dans toutes les sociétés, et pensez-le même dans les sociétés qui apparaissent comme des sociétés non démocratiques. Les segmentations sociales sont toutes de plus en plus nombreuses. Ici ou là, elles prennent la forme du multiculturalisme, mais ailleurs, elles vont prendre la forme d'autres types de segmentations. Même dans des sociétés apparemment compactes comme l'Iran ou encore une fois la Chine, ces segmentations sociales se multiplient, et il est vrai qu'il faut bien en tenir compte pour comprendre aussi comment elle joue avec une autre évolution qui est tout à fait spectaculaire, c'est la multiplication des logiques de séparation spatiale des réalités sociales. Les organisations urbaines n'ont jamais été autant marquées qu'aujourd'hui par les logiques de séparation. C'est d'ailleurs une sorte de paradoxe, puisque nous vivons une époque de mobilité où on pourrait penser que la règle est le laisser-passer permanent, où tout devrait être lisse, sans possibilité d'arrêter quoi que ce soit, et en réalité, on s'aperçoit que les organisations urbaines sont de plus en plus segmentées socialement et de plus en plus séparées spatialement. Parfois, les deux se recoupent, c'est de la ségrégation. Parfois, elles se recoupent malgré la volonté des individus, c'est la ségrégation, mais parfois, elles sont recherchées. Ce recoupement est recherché, c'est certaines gated communities ou certaines pratiques sécessionnistes qui existent aujourd'hui dans certaines organisations urbaines en Amérique du Nord, mais surtout en Amérique du Sud et en partie aujourd'hui en Asie du Sud. Autre élément, puis vous m'arrêtez quand je dépasse dangereusement, la poursuite de l'individualisation des mœurs. Mais le fait que l'individualisation et l'urbanisation vont de pair, se nourrissent l'une et l'autre, a souvent été trop peu remarqué par les spécialistes des sciences urbaines. Nous parlions tout à l'heure de problématiques de la santé, mais évidemment que les besoins de santé sont aussi une des manières d'évaluer l'impact de l'individualisation et de la nécessité pour les sociétés de prendre en compte la volonté des individus d'acquérir un certain nombre de biens, de manifester la volonté de maîtriser leur bien-être, et que tout ça a des impacts colossaux sur les organisations urbaines. Et il faudra bien un jour ou l'autre qu'on s'en rende compte. Parallèlement, il faut bien comprendre que dans le champ politique, cette individualisation s'est marquée aussi par une évolution, à savoir que nous connaissons dans les sociétés démocratiques, et c'est extrêmement embarrassant pour les pouvoirs institués, mais c'est la multiplication des opérateurs politiques légitimes. Quand vous individualisez une société urbaine, eh bien, il est normal qu'à un moment ou à un autre, ces individus se réclament comme des opérateurs politiques légitimes, prêts à intervenir, chaque individu pouvant être l'architecte de sa propre vie. Comment pourrait-il accepter spontanément que d'autres, fussent-ils ses représentants, conçoivent les cadres qui doivent guider l'architecture de sa vie à lui, puisqu'il est le concepteur et l'architecte de sa propre vie. L'individualisation des mœurs urbaines, c'est aujourd'hui une des thématiques les plus travaillées par les sciences politiques urbaines américaines, trop peu en France, parce que justement nos collègues pragmatiques américains ont compris que c'était un élément clé de la compréhension des systèmes politiques depuis Dewey, même depuis Walter Lippmann, mais le public et son fantôme. On sait que ces choses-là sont fondamentales. Trois derniers exemples d'évolution. L'impact de la numérisation. Un auteur génial, William Mitchell, en 1994, écrit un livre fondamental, un peu décrié au départ, parce que c'est quelqu'un du MIT, il l'écrit de façon un peu nouvelle. Ça s'appelle « City of Bits », la cité numérique. C'est le premier à avoir compris que la diffusion du numérique allait bouleverser la vie urbaine. Il écrit cette phrase qui a été très décriée. Les réseaux informatiques deviennent aussi fondamentaux à la vie urbaine que les rues. Il est le premier à comprendre que ce qui était en train de se jouer n'était pas simplement de l'ordre de la mutation technique, mais était une subversion radicale de ce qui fondait une certaine société et l'organisation de cette société en ville, hein, classique. Et Mitchell a poursuivi d'ailleurs autour d'une réflexion sur la lecture, sur les pratiques de lecture, sur les pratiques de bibliothèque, en croisant tout ça. La numérisation est aujourd'hui un élément puissamment actif dans l'évolution urbaine et change absolument nos modes de vie au quotidien. Alors là, il n'y aurait pas beaucoup à aller pour montrer comment les téléphones portables et les ordinateurs portables ont changé notre mode de vie quotidien, mais ça change aussi l'organisation collective de ces modes de vie. Et ça change aussi les régulations politiques. On le voit, par exemple, avec la loi Hadopi ou avec des choses comme ça, où on voit comment tout ça se mélange. Deux dernières choses. Les systèmes techniques urbains sont de plus en plus complexes. L'organisation urbaine de plus en plus lourde, de plus en plus étalée, de plus en plus individualisée, de plus en plus séparée, de plus en plus segmentée, nécessite des substrats techniques de plus en plus complexes. À tel point qu'aujourd'hui, la vulnérabilité urbaine maximale, c'est la vulnérabilité des systèmes techniques. On sait bien, par exemple, que la moindre anicroche dans un système de transport collectif, dans une métropole quelconque, provoque un ébranlement du fonctionnement collectif qui peut être extrêmement durable. Et puis, dernier point, nous commençons à vivre, évidemment, cette mutation considérable qui est liée à la compréhension plus fine que nous avons de la dimension environnementale de l'urbanisation. Nous comprenons de plus en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la question de l'anthropocène, la question de notre entrée dans ce fameux anthropocène qui est mise en avant par les spécialistes du climat, cette question est d'abord une question urbaine. Et qu'il faut donc comprendre comment on peut urbaniser cette question de l'environnement. Les organisations urbaines produisent des environnements spécifiques, de nouveaux assemblages de nature et de culture, de nouveaux assemblages d'humains et de non-humains. Il y a des réalités absolument formidables qui apparaissent avec de nouveaux acteurs, de nouvelles préoccupations, la biodiversité urbaine, etc. Et il faut évidemment tenir compte de cela. Alors, pour terminer, juste un regret. Pendant longtemps en France et encore aujourd'hui, la question urbaine n'a pas été considérée comme une question scientifiquement très sérieuse ou scientifiquement très noble. On s'en est saisi partiellement de façon incidente, alors que partout au monde, on commençait à consolider dès les années 1960 un nouveau champ de savoir, les urban studies, hein, les études urbaines, c'est-à-dire des savoirs qui ne considèrent pas l'urbain comme un terrain pour la sociologie urbaine, la géographie urbaine, la démographie urbaine, l'économie urbaine, l'histoire urbaine. Donc des savoirs qui ne considèrent pas la ville comme un terrain, mais qui considèrent l'urbain comme un objet spécifique qu'il faut essayer de penser en propre et pour lequel il faut essayer de mettre en place des méthodes spécifiques. Et bien pour terminer, je dirais qu'en France, nous sommes un peu à la traîne et pour ma part, si ça pouvait être mon dernier mot, j'aimerais bien que collectivement, y compris au Collège de France, nous nous posions les questions de savoir comment nous pourrions faire exister en France aussi de véritables études urbaines à la hauteur des défis qui sont les nôtres. Merci.